Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 20 juin 2026. On se retrouve pour l'épisode 10 des archives de l'architecte déjà et on part pour le récapitulatif de l'actualité financière avec macro, banque centrale, la Fed qui a maintenu ses taux à 3,5 à 3,75% et évoque une potentielle hausse en 2026. Nous sommes désormais sous la nouvelle direction de Kevin Warsh pour les États-Unis et on va voir donc comment ce ton va être interprété dans les prochains mois puisque pour l'instant il n'a pas l'air d'aller dans le sens de l'administration Trump qui pressait au portillon, souvenez-vous, sous l'ère de Jérôme Powell pour tout simplement baisser immédiatement les taux. On a une inflation qui repart et qui, à cause de ce qui s'est passé notamment sur le détroit d'Hormuz, nous a produit un rebond des plus fulgurants ces derniers mois. Donc désormais, la Fed qui est prise entre le marteau et l'enclume et qui va devoir prendre des décisions qui ne feront pas forcément plaisir au marché. La Bank of Japan également a relevé ses taux à 1%. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est le plus haut taux depuis 1995, donc on parle de 30 ans en arrière. Le marché a réagi à l'apaisement provisoire autour du détroit d'Hormuz avec un risque en baisse côté pétrole, malgré des négociations qui, comme on a pu le voir ces derniers jours, restent super fragiles. Côté actions et ETF, toujours la même musique, on le verra en introduction donc de l'analyse technique avec le SOX, l'ETF donc des semi-conducteurs, avec un Nasdaq et une tech qui continuent de tenir à bout de bras les marchés, tandis que bon nombre d'autres secteurs sont en train de se gripper. Les indices US restent soutenus malgré le ton plus dur de la Fed et attention aux décisions politiques et monétaires sur les 6 mois qui arrivent puisque ça pourrait avoir un impact même pour toute l'année 2027. Du côté de l'or et des matières premières, l'or qui reste volatile en ce moment et peut-être une fin de correction à venir sur cette zone élargie des 4 000 $, le pétrole dégraisse mais reste très dépendant des accords qui eux-mêmes, comme on vient de le dire, restent fragiles. Le cuivre est surveillé et probablement à surveiller aussi de notre côté, en tout cas pour ceux qui ne regardent pas que l'or. On parle aussi beaucoup moins du silver, de l'argent, et il y a des zones qui commencent à être intéressantes. On a beaucoup de positionnements, notamment via des options du côté des métaux précieux. Côté Bitcoin, crypto, toujours corrélé au risque on, avec bien entendu ce risque si hausse des taux il y a en 2026 pour la Fed, que ça appuie très largement sur le cours des crypto-monnaies. Pour le moment, les 60 à 65 000 semblent tenir et sont défendus. Il faudra donc être attentif à tous les signaux qui pourront nous venir des États-Unis aujourd'hui avec, comme on l'a vu notamment la dernière fois, même des bons chiffres du chômage qui peuvent déclencher un sell-off du côté du marché action. La semaine prochaine à suivre, on aura le PCE, l'inflation aux US, le discours de la Fed qui en résultera avec chaque mot prononcé désormais par Kevin Warsh qui va être scruté et analysé finement par le marché. Les tensions Iran-Hormuz-Pétrole, c'est un peu la trinité du moment et c'est ça qui fait ou défait finalement la tension latente sur le marché. Résultat cette semaine également de Micron et FedEx. Alors FedEx en soi c'est pas très important, par contre Micron fait partie en ce moment de ceux qui se seront hissés à coups de centaines voire de milliers de pourcents ces derniers trimestres, donc très très intéressant. PMI, activité et énergie puisque c'est également le nerf de la guerre et on aura enfin l'inflation et l'emploi en Australie, même si vous vous en doutez bien ça a bien moins de poids que ce qui se passe aux États-Unis. Et on part au niveau de l'analyse technique donc avec le SOX qui est l'ETF de iShares pour les semi-conducteurs et sur lequel si on prend le point bas de 2025 en avril au moment des tarifs de Trump, $148, on a déjà réalisé 330%, donc au-delà d'un x4. Si on prend encore plus récemment et on voit que les volumes vraiment sont ascendants sur ce truc, c'est vraiment très énervé et on a donc $310 fin mars 2026, c'était à peine voilà 2 mois en arrière et on a fait une progression de quasi 110%, donc un x2 en seulement 2 mois de temps. Donc aujourd'hui, bien entendu, on a des oscillateurs qui sont très très haut perché, que ce soit en hebdomadaire ou en mensuel. La problématique, c'est que c'est un indice qui revient régulièrement. En tout cas, si on observe ces dernières années, eh bien voilà, que ce soit en 2020, que ce soit en 2022 ou ici plus récemment en avril 2025, on revient régulièrement collé à la moyenne mobile à 200 semaines. Et aujourd'hui, avec un SOX à $641, un retour à la MM200, c'est moins 65%. Donc là, pour tous ceux qui sont en train de partir la fleur au fusil et de s'exposer à quelque chose qui est devenu complètement irréel, frénétique et qui n'aura de finalité que d'aller chercher justement cette gravité où on était déjà revenu à la moyenne mobile 20 en mars 2026, plus tard peut-être la 50 et encore plus tard la 200, c'est ce à quoi aujourd'hui finalement on s'expose en termes de volatilité quand on est exposé à la fois aux semi-conducteurs, à l'IA et à la tech américaine. Donc bien entendu, dans un momentum pareil et dans le mood dans lequel on est aujourd'hui d'une IA qui semble redistribuer complètement les cartes, tout ceci peut paraître quelque part assez logique d'un point de vue de ce que les marchés anticipent pour les prochaines années. Mais personnellement, eh bien aujourd'hui, j'irai clairement pas me positionner là où en est le cours de SOX, bien entendu, de cet ETF par rapport au risque qui n'est pas du tout en notre faveur. Et c'est comme ça, vous savez, ces dernières années qu'on essaie de réfléchir sur la chaîne. Le Nasdaq 100 qui, pour la tech américaine, était venu balayer la semaine dernière 28 235 points et quasiment revenu chercher son point haut. Ceci étant dit, pareil, le RSI est très très haut, donc c'est peut-être pas le moment opportun pour payer immédiatement la tech. Pareillement, par rapport au cours, là où il se trouve aujourd'hui, un retour à la moyenne mobile 200, c'est moins 37 à moins 38%. Et c'est là où finalement vous allez pouvoir jauger de votre risque, puisque comme vous venez de le voir, le SOX, on est à peu près à x2 en termes de pertes potentielles et donc de volatilité par rapport au Nasdaq. Et le Nasdaq lui-même, on est supérieur en termes de volatilité à ce qu'offrirait le S&P 500, qui est beaucoup plus, on va dire, élargi, bien que aujourd'hui la part de la tech qui compose le S&P 500 est des plus importantes. On reculerait que de moins 28% pour venir à la moyenne mobile 200. Alors, comme d'habitude, c'est pas tous les 4 matins qu'on revient au MM200. Là, on est en bear market crypto. Actuellement, le Bitcoin revient de travailler autour de sa moyenne mobile 200. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui se produit tous les X années. Parfois même, ça peut prendre 5 à 10 ans sur les indices. Donc, c'est pas quelque chose qui se présente tous les jours. Donc, tout ce à quoi il faut qu'on essaie de répondre aujourd'hui en termes de risque et de gestion de risque, finalement, c'est est-ce qu'on a plus de chances dans les 3 à 6 mois qu'une descente arrive, et est-ce qu'on a des cartouches de côté pour recharger à bon compte, ou est-ce qu'on est déjà totalement et pleinement investi et finalement le moins de 30% qui viendra tôt ou tard et qui viendra tout simplement effacer et gommer un petit peu les excès qu'on a pu avoir sur la tech américaine et l'IA ne vous font pas peur, et derrière sur une 10-20aine d'années ça devrait plutôt pas mal se passer. Il y en a un également dont on parlait un peu moins récemment et qui pourtant s'est hissé plutôt pas mal, c'est les small cap aux États-Unis. Donc on avait eu un truc très très propre d'un point de vue tech. On était revenu donc tester après cette première sortie ici à 2730$ en janvier 2026. On revient backtester la zone de sortie à 2440. C'était une zone qu'on avait déjà travaillé en termes de résistance en novembre 2021 et en décembre 2024. Je vous rappelle que novembre 2021, c'était le top du cycle d'il y a 2 cycles en crypto, et décembre 2024, c'était une zone où théoriquement on aurait pu avoir le top final de ce cycle-là. Ça s'est un petit peu étendu jusqu'à 2025, mais voilà, on a deux points en tout cas au niveau du Russell qui démontrent que c'était des moments où par la suite on ne voulait plus prendre de risques. Là, le truc un petit peu cocasse, une fois de plus, c'est que le marché crypto ne profite pas du tout ni de ce qui s'est passé sur la tech, ni du risque qui est pris sur les small caps aux États-Unis. Donc c'est un petit peu la double punition, et c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté, toujours pareil, en termes de ratio risque et de ratio ruine sur l'allocation qu'on souhaite prendre pour du long terme en Bitcoin et en crypto-monnaie, si toutefois vous avez un appétit un peu plus aiguisé pour ventiler un petit peu plus large sur le domaine des crypto-actifs. La semaine se clôture plutôt pas mal pour ceux qui ont du WPEA et du CW8, donc les indices monde. Pourquoi ? Puisque, on l'avait vu un bon nombre de fois, le DXY est en train de tenter la percée des 100 points. On a clôturé à 100.76, ça a buté à 101 sur la moyenne mobile 50. Et si ça finit par passer, on a la médiane de range qui est pile poil alignée avec la moyenne mobile 200 autour des 103 points pour le DXY. Ce qui fait que si on a un dollar qui se renforce, eh bien on bénéficie un petit peu de cet effet vase communicant sur les devises, avec un euro qui augmente légèrement, puisque pour l'instant, c'est pas non plus des mouvements complètement fou, mais voilà, notamment même si vous détenez des stablecoins libellés en dollars, eh bien vous allez avoir un petit peu plus à la conversion en euros. Il est à noter pour les indices, et on clôturera pour cette partie-là là-dessus, l'Eurostox 50 nous fait une petite bougie d'indécision en s'étant arraché sur gap haussier cette semaine. Donc c'est à noter, hein, l'Europe qui s'est plutôt pas mal comportée ces derniers temps, qui reprend un petit peu, j'ai l'impression, sous l'ère Trump, son destin en main. Finalement, l'Europe qui s'est faite bousculer, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Ça reste probablement bien pour les prochaines années d'avoir une petite exposition à l'Europe, mais le moteur, on le sent malgré tout, est fortement positionné sur les États-Unis, et tant que ça perdure, eh bien, il n'y a pas de raison, outre mesure, de la gestion du risque, justement, géographique et de diversification sectorielle, de se positionner d'un seul coup très fort sur l'Europe en termes de pondération au détriment des États-Unis. Ceci étant dit, il y a beaucoup de banques petit à petit qui sont en train de passer à neutre par rapport à favorable précédemment pour les States et de basculer d'un consensus plutôt négatif sur l'Europe à neutre ce coup-ci côté Europe. Donc petit à petit, les forces en présence s'équilibrent. Du côté du gold, donc ça continue de faire, d'ailleurs depuis 6 semaines, on baisse consécutivement, donc très très belle correction. On perd la moyenne mobile 50, on va très certainement revisiter les 4000 à ce support de 3900 points. Si jamais ça lâche, on a par la suite l'AMM 100 autour de 3573, une belle zone de support qu'on n'a pas beaucoup travaillé puisque le gold est parti comme une fusée entre 3200 et 3400. Et enfin, pour du très long terme, la moyenne mobile 200 semaines est autour de 2800 $ l'once, ce qui ferait par rapport au cours d'aujourd'hui une perte de moins 33% pour le gold, et par rapport à son ATH, ça nous ferait une perte d'environ moins 50%. Donc là aussi, ça l'a déjà fait par le passé, même pour un actif aussi robuste que le gold. Et quand on a comme ça des excès haussiers, systématiquement, on finit toujours, c'est la gravité des marchés, par revenir un petit peu aux moyennes. Côté crypto, on part sur le crypto total avec 2170 milliards, toujours au contact de cette MM200. Alors, du côté de BTC, c'est pas si moche puisque on se dit, ok, les 60 000 ont l'air de tenir, etc. On a la fameuse divergence RSI, les oscillateurs qui sont en train de se poser, enfin voilà, c'est pas si moche. Mais d'un point de vue de la réaction et des acteurs, est-ce qu'ils se positionnent vite autour des 60 000 ? Est-ce qu'ils sont dans l'attente de quelque chose ? Je pense qu'on est plutôt dans ce deuxième scénario. Et finalement, c'est là où entre en jeu la véritable capitulation, le moment où on perd des zones qui psychologiquement sont des zones un peu clés sur les fins de bear market pour le marché crypto, et où on se disait « Ok, on ne verra plus jamais le Bitcoin en dessous de tel prix. Ok, là, les 60 000, c'est bien défendu, c'est bon, on est en train de faire notre point bas, tout va bien. » Et c'est là où, la plupart du temps, le marché choisit de casser des structures et de nous balancer une bougie de 5, 10, 15 000 dollars d'un seul coup. Les gens capitulent, on a d'énormes volumes qui viennent s'imprimer ici, beaucoup plus haut qu'à l'accoutumée, et c'est là où pendant un certain temps, on commence à faire un travail qui dure quelques semaines à quelques mois, et de la même façon qu'on finit par terminer cette box de bottom pour le marché crypto, quand on en sort, on a une volatilité qui à la fin tend à se casser vraiment énormément. On n'a quasiment plus aucun Bitcoin qui change de main, etc. Et d'un seul coup, c'est arrivé en tout cas sur les deux cycles précédents, on a une énorme bougie avec beaucoup de volume qui sort d'un range de compression. Et là, on sait la plupart du temps que voilà, ça y est, on est reparti. Donc franchement, je pense qu'il y a quand même des chances que ça se passe exactement comme ça s'est passé ces dernières années, peut-être même dans les clous pile poil de l'automne, de ce que nous a offert sur les deux cycles précédents, voire trois, le Bitcoin en termes d'historique, tout en ayant bien en tête pour ceux qui attendent fermement des prix comme les 40 000, comme les 50 000 ou comme les 30 000, on voit passer un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si le scénario dont on parle ici avec une mèche bien dégueulasse, ne serait-ce qu'aux 50 000, vient à arriver, vous vous doutez bien qu'à ce moment précis, psychologiquement sur les réseaux sociaux, on va vous vendre tout et n'importe quoi. Ça y est, le Bitcoin est mort, ça y est, le Bitcoin va à 10 000. Et là aussi, d'un point de vue du mood, si vous commencez à avoir des targets comme ça sur une bougie, une grosse bougie impulsive de capitulation qui vous semble déraisonnable à la baisse, c'est que très certainement on est dans le dur de la finalité justement de ce point bas de bear market. La seconde crypto-monnaie du marché continue de faire le yo-yo depuis les 1 500 $ qu'elle a touché il y a 3 semaines. On a balayé cette semaine entre les 1845 et les 1650 pour s'arrêter à 1724 pour l'instant. Donc Ethereum, pareil, qui nous fait une divergence RSI, mais ça reste totalement Bitcoin dépendant. Donc c'est un petit peu la même musique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une bougie qui vient balayer sous les 1400 $, voire même se faire un petit peu peur autour de 1000-1100? C'est tout à fait de l'ordre du possible, tout comme on est peut-être en train d'essayer petit à petit de faire les fameux 3 mois là de latéralisation qui nous serviront de futurs points bas. Donc ça va être vraiment les 3 à 6 mois là qui viennent qui comptent le plus pour finalement les 3 prochaines années par rapport au marché crypto. Côté minière, trésorerie, société liée au crypto, on a Hive qui nous clôture la semaine à plus 7,30. C'est pas moche et on a beaucoup de titres qui sont exécutés depuis avril 2025, ce ceci étant dit, ça reste compliqué de se positionner sur tout ça. Pareil pour Bitfarms, qui avait un peu pivoté côté IA, c'était également le cas de Hut 8 Mining. On avait TerraWolf, pareil, bel train soutenu. Au long terme, on pourrait même y voir comme ça un canal parallèle ascendant qui est très pentu pour le coup et qui marche plutôt pas mal. On va voir comment ça se passera pour la suite, mais là, pareil, on est relativement haut perché et il faudra peut-être attendre d'avoir des retours aux longues moyennes. Donc aujourd'hui, on est trop haut pour que ça puisse m'intéresser, par exemple, sur un truc comme TerraWolf, et je ne l'ai pas spoté précédemment. C'est des trucs que je surveille sans vraiment surveiller. Je préfère me positionner sur des dossiers, pour ma part, comme on le dit souvent, en bon père de famille, qu'on maîtrise un minimum, entre guillemets, et à ce compte-là, eh bien, on a suivi depuis son introduction jour 1 du Coinbase, et ça me paraît être bien moins volatile et moins compliqué, finalement, que ce qui se passe du côté des minières aujourd'hui. MicroStrategy aussi à surveiller, qui est en train de revenir sur le bas de son range. Attention, il y a un FUD assez important, notamment sur l'émission de STRK. Michael Saylor aurait déclaré lui-même qu'il a codé le truc via ChatGPT, ou du moins qu'il a demandé comment le mettre en place à l'IA. Bref, ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai de moins en moins de confiance sur MSTR. J'ai une toute petite position ultra spéculative. Si ça revient autour de $100, je mettrai peut-être mes dernières cartouches. Si ça part à la cave, très certainement que je couperai la position. Et ça voudra dire que du côté de Bitcoin, c'est en train de chier des bulles. Cypher également qui nous fait un nouveau point haut, plus 11%. Là, on est aussi sur quelque chose qui se positionne bien plus désormais comme un acteur data center, cloud, énergie, IA. Donc voilà, ça a bénéficié du momentum, bien entendu. Roblox aussi, qui est en train de faire un truc pas dégueu. On a un double creux ici, quasi parfait, autour d'un support. Donc c'était à $40, on est à 51. Si jamais ça pousse et que les volumes commencent à rentrer, on a quand même un ATH à venir chercher à $150. Donc là, aujourd'hui, le stop, pour ceux qui voudraient prendre un vrai trade, entre guillemets, on le met en dessous des $40 et on a un ratio risque-récompense si on rentre à 50, qui nous permet éventuellement, dans un premier temps, d'aller chercher entre 75 à $100. Et si Roblox vient à chercher l'ATH, eh bien, ça nous fait 50% 50 et une perte potentielle de moins de $10 si on coupe à 40, donc un ratio risque-récompense qui n'est pas dégueulasse. Take-Two qui nous a fait une très belle bougie, donc là, on l'avait vu déjà la semaine dernière et au cours de cette semaine. Pourquoi ? Puisqu'il y a le teasing et les précommandes qui arrivent, donc ça sera ce lundi, si je ne dis pas de bêtises, que les précos pour GTA 6 auront lieu. Ça va donner pas mal de signaux au marché et d'informations si c'est des précommandes qui dépassent les attentes ou si on est voilà, dans les clous des précédentes sorties. En tout cas, aujourd'hui, on a GTA 6 et Take-Two qui vont très largement faire parler d'eux dans les prochains mois. On a l'indéboulonnable ASML également qui continue de pousser, $1,929, donc que dire de plus. Il y avait une petite info, je ne sais pas si c'était un FUD ou quelque chose, où on aurait peut-être une machine qui aurait atteint la Chine par rapport à quelque chose de très secret, ultra breveté, etc., dont seul ASML possède finalement tous les secrets. Donc ça n'a pas l'air d'avoir eu quelques réactions que ce soit sur le cours. Je n'ai pas vérifié si c'était vrai, pas vrai, etc. On voit tellement de choses passer du côté des réseaux sociaux. En tout cas, hors mini-FUD comme ça de cette info qui n'en est peut-être pas une de ces derniers jours, il reste aujourd'hui un des incontournables qui a un avantage concurrentiel sur leur propre secteur qui est complètement fou et dont ils sont les seuls aujourd'hui à pouvoir produire à cette qualité et à cette finesse finalement avec des procédés là aussi, des machines qui valent des petites fortunes. Et des fois on dit des petites fortunes pour des machines comme des IRM, des scanners, etc. Là on parle de chiffres qui sont immensément plus astronomique. Nvidia qui, bah, pour l'instant, défend à chaque fois les 200 et quelques dollars quand elle s'y rend. Là, pareillement, si on fait le petit travail voilà, de retour aux moyennes mobiles long terme, un retour à la MM200 pour Nvidia, c'est moins 50%. Quand est-ce que ça arrivera ? Ça arrivera tôt ou tard. On a malgré tout, comme on l'avait vu la dernière fois aussi, une volatilité au niveau des oscillateurs qui est en train de se contracter. Et quand on regarde au niveau du Nasdaq, on n'a pas tant de titres que ça qui sont exécutés actuellement. Donc on a une consolidation. On va voir comment on va en sortir. Et aujourd'hui, je pense que Nvidia, tant qu'elle continuera d'avoir des résultats et des projections complètement mirobolantes pour le futur, tout ira bien. Le jour où il y aura la moindre déception quant aux attentes du marché par rapport à ce qu'elle produit, Là, voilà, on verra de suite des retours un peu plus importants aux moyennes. La percée de Robin Hood, alors ça, je suis pas mécontent parce que j'avais commencé à me positionner, je vous l'avais dit, 0,61, 8 de Fibo, moyenne mobile 100, on n'était pas dégueu ici, ça restait assez dégradé, mais pour commencer un DCA, pourquoi pas, et on se projetait jusqu'à 42-45 $ quand on était autour de 64, si jamais on perçait jusqu'à la MM200. Finalement, on a eu notre double creux ici, résolution haussière, on clôture la semaine au-dessus de la moyenne mobile 50 qui était la dernière à reprendre, donc très certainement qu'on va viser dans un premier temps un retour à l'ATH autour de 154 $ pour Robinhood. Il y en a une autre qui se fait martyriser par contre, c'est Netflix. On va très certainement revenir visiter les points bas de février 2026 à 75 $, et la bonne nouvelle c'est que on a le vrai support juste en dessous à 70 $ avec la MM200, donc là Netflix, il y aura très certainement un bon coup à jouer. Côté France, une semaine sans grande saveur, j'ai envie de dire, il s'est pas passé énormément de choses. Alors il y aura toujours des titres qui bougent, voilà, dans un sens ou dans l'autre. On a peut-être Total qui est en train de revenir à 70 € après nous avoir fait un joli double top à 81. Si jamais ça lâche, on a un support additionnel à 65 et ensuite toutes les moyennes mobiles qui sont quasiment paquées dans un mouchoir de poche entre 60 et 62 €. Voilà, pour du long terme, ça sera autour de 60 € pour Total. Côté altcoin, Solana qui essaie de reprendre donc cette zone importante des 75, mais il faudra mettre un sacré coup de rein pour percer les 82-83 et rallier la MM200 par le dessous à 105-106, puis renverser la polarité à 133, voire 150, où nous attendent de moyenne mobile 50 et 100. Donc beaucoup de chemin à parcourir encore pour Solana. Ceci étant dit, pour commencer un DCA quand on est à 60 $, ça paraît pas déconnant pour un actif qui quand même est venu chercher 300 $ sur ce cycle. Après, si Bitcoin vient à 50 000, très certainement qu'on voit Solana entre 25 et 40 $. Donc c'est aussi à prendre en considération. Les altcoins, souvent, c'est la problématique des bear markets et l'impatience que ça génère, la frustration aussi, j'ai envie de dire, on a tendance à payer beaucoup trop tôt et par la suite, on continue d'avoir des dégringolades en dizaines de pourcents. On clôturera avec l'Asie, avec des actions qui pour l'instant sont très faiblardes. C'est, voilà, on recule de moins de 3,30 de nouveau pour Xiaomi, on recule pour Nintendo à 1,26, Tencent on a à moins 1,17 et par contre, par rapport à la hausse de taux d'un point pour le Japon, eh bien on a le 30 ans et le 20 ans qui ont pris respectivement 2,23 et 1,85. Alors on n'est pas sur un nouveau point haut, on avait fait 4,2 pour le 30 ans il y a quelques semaines et environ un mois et 3,8 pour le 20 ans, mais on est sur une trend qui reste soutenue et tout ceci quand on regarde exactement la même musique du côté des États-Unis, on n'en a pas parlé aujourd'hui mais c'est toujours pareil, on est à 4,9 pour le 30 ans. On reste sur un marché qui est un peu en mode cocotte minute, qui est sous pression, qui y croit du côté de la tech mais qui commence à constater que oui, l'inflation est un problème et que oui, tous les secteurs annexes qui composent l'économie aujourd'hui ne peuvent pas être balayés d'un revers de la main et totalement oubliés. Ce qui fait la croissance aussi de l'économie et du monde aujourd'hui, eh bien, c'est le consommateur, c'est le fait de pouvoir vendre des produits. Quand on voit là que Apple commence à préparer un petit peu tout le monde pour dire ok, on va être obligé de répliquer la hausse des semi-conducteurs et donc des puces de mémoire, notamment sur le consommateur, et que les iPhones vont faire plus 200, plus 300, plus 400 $. Voilà, là, c'est la réalité du consommateur final. Alors, il y aura toujours, vous allez me dire, les gogos pour prendre le dernier iPhone à la mode, pour faire un crédit, etc., même s'ils n'ont pas un sou sur le compte. C'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, quand on prend les produits de grande consommation, on risque d'avoir des problématiques bien plus importantes dans les prochains trimestres qui, eux-mêmes, pourront impacter négativement l'économie sur un rythme stagflationniste si jamais l'inflation vient à s'arrêter par rapport à sa hausse et redescendre petit à petit dans les prochains trimestres, ce qui en soi, un scénario de stagflation comme ça sur 6-12 mois serait pas si catastrophique, on aurait juste un ralentissement, une petite purge du côté des marchés et tout, voilà, on se taperait dans la main et ça irait pas si mal pour les 3 années à venir. L'autre aspect, ça serait de commencer à avoir en simultané d'un ralentissement plus profond économique, sociale et de croissance, puisque les derniers chiffres de la Fed aussi pour les States démontraient que la croissance petit à petit va en deçà des attentes et de ce qu'ils prévoyaient à la base. Donc si on vient à avoir un resserrement plus important, la Fed qui augmente les taux, les taux d'intérêt qui donc deviennent plus importants, moins de crédit, moins de consommation, et en simultané l'IA qui elle-même commence à ralentir de par le fait que les entreprises, notamment les petites et moyennes, vont pas suivre ce rythme effréné de balancer des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards à gogo pour une productivité qui à court terme restera relativement modérée par rapport à l'IA. C'est bon nombre de scénarios qui nous invitent dans tous les cas à la prudence. Certes, il y a toujours cette euphorie complètement dingue qu'on peut observer du côté de la tech et des nouveaux investisseurs qui, à compter de 2020, quasiment n'ont connu que de la hausse, hormis le bear market vite fait de 2022, et pire encore pour ceux de 2023, 24, 25, 26, modulo le petit schisme d'avril 2025 des tarifs de Donald Trump, pareil, n'ont connu quasiment que la hausse. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont suroptimistes dans un marché qui, lui, malgré tout, commence à douter, et des super banques d'affaires qui disent « profit warning, faites attention sur l'IA et la tech, commencez à sécuriser vos gains ». Donc malgré tout, on est dans un monde qui commence à devenir un peu plus dans l'attente de ce que pourra être demain, et des marchés qui, eux, eh bien, continuent de danser avec la musique qui ne s'est toujours pas arrêtée, mais jusqu'où justement ça peut durer. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end, et on se retrouvera la semaine prochaine. Ciao, ciao.